Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Les Humains et leurs machinations. Après cette petite pause hivernale, je vous propose de retourner à la musique d'un des groupes dont nous avons le plus parlé depuis le début de l'émission, Pink Floyd. Comme vous ne l'avez pas compris, il y a beaucoup de fans de Pink Floyd dans ce qui produit cette émission. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir un morceau qui date du début de la carrière de Pink Floyd. Un morceau très bizarre, très étrange, si étrange et bizarre en réalité, que les membres du groupe eux-mêmes le détestent. Le morceau, c'est Atom Heart Mother, de l'album du même nom. Il est, je pense, important de remettre Atom Heart Mother dans son contexte. Ce morceau est sorti en 1970 sur l'album du même nom, et c'est un morceau qui, par bien des aspects, était le plus ambitieux du groupe à l'époque. En 1970, le groupe Pink Floyd vient de se séparer, il y a à peine un an, de Syd Barrett, leur chanteur principal. Syd Barrett est le chanteur qui a créé le groupe Pink Floyd, littéralement. Pink Floyd, à la base, c'est Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright qui jouent de la musique psychédélique. En effet, Pink Floyd est un groupe de rock psychédélique à la base, qui a commencé dans les années 60, aux alentours de 1965, et qui, dont le premier album est sorti en 1968, The Piper at the Gate of Dawn. Le problème, c'est la drogue. Effectivement, Syd Barrett, consommant trop de LSD, a fini par devenir fou. Les causes exactes de sa maladie mentale ne peuvent pas être déterminées, mais on pense que c'est clairement la drogue. Et quelle était sa pathologie? Aujourd'hui encore, on ne le sait pas vraiment. Syd Barrett est devenu très 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 distant avec les médias au moment où il a contracté sa maladie. Mais voilà. Du fait de son comportement de plus en plus instable et impossible à gérer, Syd Barrett a été limogé du groupe et remplacé par son ami d'enfance qui avait été appelé en renfort par le groupe pour l'aider. Cet ami d'enfance, c'est David Gilmour. Le fameux et célèbre David Gilmour qui permettra au Floyd d'atteindre les sommets qu'il a atteints après. Mais voilà, pour l'instant, nous ne sommes qu'en 1970 et après le départ de Syd Barrett, le groupe se cherche longtemps, pendant plusieurs albums. Et les deux albums qui viennent d'être publiés, à savoir A Saucer Full of Secrets et Uma Guma, étaient des albums qui, par bien des aspects, n'étaient pas des albums réussis. Ce sont des albums qui sont souvent considérés comme les plus faibles de la carrière de Pink Floyd, car ils montrent à un groupe qui se cherche plusieurs individus qui chacun ont leur force, mais qui n'arrivent pas à associer leurs forces entre elles pour produire une musique qui soit légendaire. Et cette association pleine de chacun des membres du groupe, on la retrouve pour la première fois dans le morceau Echoes, dont on a déjà parlé sur l'album qui suit Atom Heart Mother, Medal. Cependant, sur Atom Heart Mother, on a déjà le virage vers le rock progressif qui est entamé. Et vous allez très vite comprendre pourquoi en écoutant. C'est un morceau qui, par bien des aspects, est dans la démesure, bien plus que Echoes. C'est le morceau de Pink Floyd qui dure le plus longtemps, 23 minutes et 43 secondes. Ça va être donc un sacré voyage qu'on va faire ensemble, avec des passages extrêmement épiques et des passages extrêmement expérimentaux. Bref, Pink Floyd, comme on les aime. Je vous invite donc à plonger avec moi dans ce magnifique décor. Et on va commencer directement avec le tout début de la chanson, Atom Heart Mother. Le morceau commence extrêmement doucement. Une note à l'orgue, grave et profonde, soutenue par un roulement de cymbales, très lent. Et puis, enfin, le tuba rentre. Puis les trompettes, avec les trombones. Et oui, car Atom Heart Mother est un morceau symphonique. Pink Floyd s'est associé au compositeur de musique, un compositeur de musique orchestrale pour pouvoir orchestrer Atom Heart Mother, qui était une pièce qui était déjà en développement chez Pink Floyd depuis un petit moment. Et on commence donc avec énormément de dissonance et des annonces des futurs thèmes qui vont arriver juste après. Espèce de chaos orchestral un peu atonal qui ne semble aller nulle part et qui enfin débouche sur le thème principal. Et maintenant. Arrêtons-nous là et analysons ce magnifique thème, qui est le thème principal de la première partie, Father's Shout, le cri du père. Ce thème est en mi mineur, c'est-à-dire cette gamme-ci. Et dans cette gamme de mi mineur, on va avoir cette progression d'accords-là qui va sous-tendre le thème. Et rien que ça, c'est déjà génial. On est en mi mineur, donc on a mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré, mi. Ce sont les notes de la gamme. Et on part de mi, du mi mineur, la note principale, l'accord de la tonique, qui est sombre. On monte vers l'accord de sol majeur, qui est l'accord du relatif majeur. Un mouvement assez classique qu'on retrouve beaucoup dans la musique pop et dans la musique de film, d'ailleurs. Assez épique. Mais là, on s'attendrait à aller vers... quelque chose comme ça. Et non, à la place, on va sur cet accord-là, qui n'a rien à faire dans cette tonalité-là. En effet, cet accord-là contient... un fa bécard. Si on mettait un fa dièse, on obtiendrait... un accord diminué. Et tout de suite, c'est beaucoup plus triste et beaucoup moins épique. Qu'est-ce qui se passe ? On va jouer sur ce qu'on appelle le mode phrygien. Qu'est-ce que le mode phrygien ? Prenez une gamme mineure, n'importe laquelle, et la deuxième note de la gamme, celle qu'on appelle la seconde, vous la baissez et vous obtenez la gamme phrygienne. Et du coup, on joue sur cette couleur qui alterne entre la couleur mineure et la couleur phrygienne. Et c'est comme ça qu'on construit la progression d'accords. Mi mineur, sol majeur, fa majeur, et puis on descend sur le sol majeur, le do majeur. Et ce do majeur, si on monte d'une tierce dans la gamme, on revient sur le mi majeur, sur le mi mineur, pardon. Et ce qui nous donne une jolie boucle. Et sur cette boucle-là, on va avoir... la première fois, on tourne sur ce mode phrygien avec cette couleur phrygienne qui s'ajoute. Et la première fois, on a cette mélodie. Comment cette mélodie est construite ? Déjà, on monte l'arpège de mi mineur. Puis on arrive sur... là, une note de l'accord de sol majeur, le ré. On fait un autre arpège, mais cette fois-ci en descendant. On arrive sur le do. Et on tourne pour arriver sur le sol de l'accord de do majeur. Si on prend les notes, uniquement les notes de base, on obtient... ce sont les notes qui sous-tendent la mélodie. Et après, il suffit juste de les connecter avec des arpèges et des descentes. Et dans la seconde partie de la mélodie, on va changer de grille d'accord au lieu de faire. On va passer sur... Ah là, ça. On a changé de mode. On est passé du mode phrygien, qui est le mode mineur le plus sombre, qui a une couleur vraiment très sombre, au mode dorien, qui est, comme vous le rappelez, le mode mineur avec la sixte augmentée, une sixte plus haute que la sixte de base du mode mineur, ce qui lui permet d'avoir une couleur un peu plus ouverte, un peu plus lumineuse. Et là, on fait mi, sol, la majeur, ce la majeur dorien, et là on va sur ce si qui normalement dans une gamme mineure, vous savez, est mineur. Mais ici, est majeur, parce qu'on emprunte le si majeur de la gamme de mi majeur. Tout simplement, un move qu'on fait beaucoup en musique classique, comme vous le savez, puisque c'est, il crée plus de tension, ce qui permet de ramener à la tonique. Donc, avec cette construction entre le balancement entre le mineur et le majeur, entre le phrygien et le dorien, et l'utilisation du 5 majeur, de l'accord 5 majeur, de la dominante majeure, c'est ça qui permet au morceau de décoller vers le haut, on va dire, et d'avoir cette teneur épique. L'orchestration aussi aide beaucoup. On a les accords qui sont joués pleinement avec des grands accords sur les 6 cordes à la guitare, la batterie qui évidemment tabasse, la basse qui souligne de manière élégante et simple, très très simple, la basse de chacun des accords, et le corps, les corps qui vont jouer à l'unisson le thème principal, avec en dessous une contre-mélodie jouée au trombone. Écoutez bien. Était sur ce fa majeur et on revient sur le mi mineur et on retrouve le motif qu'on avait dans l'introduction, un motif chromatique qui se balançait à la trompette. On retrouve de la tonalité, évidemment la tonalité c'est quelque chose qui est assez caractéristique de ce morceau parce que c'est ça qui permet de donner cette tonalité un peu moderne au son du morceau. Et là, on revient sur le 5 majeur pour l'entrepousser le thème. La basse est beaucoup plus active que précédemment. Et la contre-mélodie aussi, beaucoup plus active, ce qui rajoute encore plus d'épique. Change de section. Avant d'écouter plus en détail ce magnifique solo de violoncelle, je vous invite à ce qu'on s'intéresse à cette mélodie et à la grille d'accords qui la sous-tend, car la grille d'accords est vraiment géniale. Déjà, le rythme de l'accompagnement fait à l'orgue, à l'orgue électrique, à l'orgue analogique, sans doute un orgue Hammond, c'est... qui est sous-tendu aussi par la basse, qui le fait une octave plus bas. C'est un rythme qui est entraînant, mais en même temps assez statique, et qui va permettre de bien... qui est juste sur un arpège très simple, qui permet de souligner l'accord. Donc, quels sont donc ces fameux accords dont je vous parle depuis tout à l'heure? On a d'accord de mi mineur, on en est toujours en mi mineur. L'accord de la mineur. Qui ensuite amène un accord de sol majeur. Puis un accord de si mineur. Et là, on change d'un coup vers un la bémol mineur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un si bémol majeur. Mi bémol majeur. La mineur. Et si majeur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette suite d'accords qui, comme vous l'avez compris, voyage beaucoup? On part de notre tonalité de base. Très normal. L'accord principal, l'accord de tonique. On va sur l'accord de la sous-dominante, de la quarte si vous préférez, la mineure. On revient sur le sol majeur qui, comme je vous le rappelle, est le relatif majeur de mi mineur. Et on va sur le 5 mineur de mi mineur. Si mineur. D'ailleurs, je pense que c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un petit concept qui s'appelle la force de changement. Dans une progression d'accords, les accords ne s'enchaînent pas uniquement pour des règles d'harmonie. Il y a aussi le fait que quand on change un accord, la manière dont on va d'un accord à un autre va beaucoup influencer le sentiment qu'on ressent à écouter cette progression d'accords. Écoutons cela. Si je vous prends un accord, disons, mi mineur. Et que je vais sur un accord qui a une tierce de distance. Une tierce de distance, c'est quoi? Dans la gamme, ça va être sol majeur et do majeur. Donc, on écoute ces deux versions. D'abord, sol, demi à sol, puis demi à do. C'est assez statique, ça ne bouge pas beaucoup. On reste globalement dans le même environnement. Et puis là sur Do. Ça bouge pas, c'est assez statique. On a un sentiment de prolonger en fait le son principal qui était celui de l'accord du premier accord. On prolonge légèrement. Il y a très peu de mouvement. Les mouvements de tierces sont connus pour être des mouvements qui ne propulsent pas beaucoup. C'est des mouvements doux, des mouvements assez doux. Et à l'opposé du spectre, on va avoir des mouvements de quarte. Si je vous fais... Là, ça bouge beaucoup. On sent qu'on change de couleur à chaque accord. Ça va de l'avant, si vous voulez. Cette notion d'aller vers de l'avant, c'est parce qu'on fait des changements par quarte, en allant d'une quarte à l'autre. Ici, on est sur un mi. On va sur l'accord de la, sa quarte. Et on pourrait aussi aller de mi à si, sa quarte inférieure. Ça aussi, ça a beaucoup de mouvements à l'intérieur. Si quand on fait des mouvements... Et vous pouvez prendre n'importe quel accord et faire ça d'ailleurs. Prenons un Do majeur. Bougeons. Voilà, d'une quarte vers le haut. Le mouvement est assez important comparé à la tierce où c'est beaucoup plus immobile. Là. Ça bouge beaucoup. Et entre les deux, du coup, entre les mouvements qui bougent énormément, c'est-à-dire les mouvements de quarte, et les mouvements qui bougent assez peu, c'est-à-dire les mouvements de tierce, on va avoir les mouvements de seconde. C'est-à-dire qu'on va aller juste une note au-dessus. Ou en dessous. Ça bouge, mais pas autant. C'est-à-dire que si je vous fais... Ça bouge pas autant que... Là, on sent qu'il y a...